Espace, frontière de l'infini, vers laquelle voyage notre vaisseau spatial.
Vers l'infini et au-delà!
Miroir magique au mur, qui a beauté parfaite et pure? Cette angoisse de la Reine de Blanche-Neige est-elle celle de l'humanité? Pourquoi sommes-nous condamnés à vieillir? L'être humain vit une centaine d'années, la tortue géante jusqu'à 250 ans, le requin du Groenland jusqu'à 400 ans et dans le domaine végétal, le séquoia géant jusqu'à 3500 ans et la posidonie, une plante à fleurs sous-marine, pourrait vivre jusqu'à 200 000 ans. La vieillesse est-elle inéluctable? Prenons le chemin de la sénescence et cheminons ensemble vers l'infiniment vieux. Et pour parcourir cette longue voie de la dégénérescence, nous sommes en compagnie d'Alain Froment. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin spécialiste en anthropologie biologique au Musée de l'Homme à Paris. Et nous sommes en duplex depuis Montpellier chez nos camarades de France Bleu Héros avec Pierre-François Roux. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes biologiste chercheur à l'INSERM, à l'Institut de recherche en cancérologie de Montpellier. Et si, pour commencer, on prenait tout dans le sens inverse?
Jamais rien vu de tel. Il est presque aveugle à cause d'une cataracte. Je ne suis pas certain qu'il entende. Ses os révèlent une arthrite sévère. Sa peau a perdu toute élasticité et ses mains et ses pieds sont ossifiés. Il présente toutes les dégradations. Les infirmités, non d'un nouveau-né, mais d'un homme âgé de plus de 80 ans sur le chemin du tombeau.
Il va mourir.
Son corps le trahit avant que sa vie ait commencé. Certaines créatures ne sont pas faites pour survivre.
Non, ce bébé, c'est un miracle, ça c'est sûr. Mais pas le genre de miracle qu'on espère voir. Écoutez, écoutez-moi bien tous. On va avoir un invité qui va vivre chez nous pendant un petit moment. Ma sœur a eu un enfant et elle ne peut pas en prendre soin alors. Son nom c'est... Benjamin. Benjamin. Il n'est pas en bonne santé, alors il va falloir qu'on s'occupe bien de lui.
J'ai eu 10 enfants. Il n'y a pas de bébé dont je ne puisse m'occuper. Laissez-moi le voir. Dieu du ciel, c'est le portrait caché de mon ex-mari.
Écoutez, il est prématurément vieux. Le docteur Rose a dit qu'il ne lui restait pas beaucoup de temps sur cette terre.
Bienvenue au club.
Extrait de l'étrange histoire de Benjamin Button, le film de David Fincher de 2008, inspiré de la nouvelle de Scott Fitzgerald, qui elle date de 1922 et qui met en scène finalement un parcours inverse d'un enfant qui naît vieux et qui au fil de sa vie va rajeunir. On entend dans ce film une histoire un peu à rebours justement de ce qui est finalement une sorte de crainte antique, universelle de l'être humain, celui de vieillir. La sénescence humaine finalement, Alain Froment, est une source d'angoisse mais aussi de fantasmes et de terreur depuis la nuit des temps.
C'est déjà mourir qui est un peu désagréable pour nous et effectivement c'est un processus de dégradation pour lequel la médecine essaye d'apporter des solutions. En fait, je pense qu'il faut déjà définir un peu ce qu'est la longévité par rapport à ce qu'est l'espérance de vie. Parce que ce sont deux choses qu'on peut confondre. Donc, l'espèce humaine, elle a des caractéristiques physiologiques. On a un poids, une taille, etc. Et on peut considérer qu'on est fait pour vivre 100 à 130 ans parce que, tout simplement, on a des gens qui ont atteint cet âge-là. Et ça, depuis la nuit des temps. Ça fait pas seulement depuis les époques récentes qu'on a des centenaires. Simplement, autrefois, il y en avait peu. Par exemple, il y a 50 ans, en France, il y avait peut-être 1000 centenaires. Et dans 50 ans, il y en aura peut-être 250 000.
En 1900, il y en avait 100. Et en 2060, on en espère 200 000 en France.
Voilà, rien qu'en France. Voilà. Et donc, ça nous conduit à considérer ce que c'est que l'espérance de vie, qui est calculée soit à la naissance, soit à diverses étapes de notre parcours. Alors, c'est là qu'il y a une petite confusion. Que des beaux esprits comme Michel Serres, une fois que j'entendais, font parfois. C'est-à-dire que on dit, voilà, plus le temps passe, plus on gagne en espérance de vie. En fait, il faut voir que dans une population qui est peu médicalisée, il y a à peu près deux pics de mortalité. Il y a à la naissance et dans le très bas âge, et ensuite en fin de vie. Et entre ces deux pics, les gens meurent moins, en fait. Mais quand vous avez beaucoup de morts à la naissance et beaucoup de morts autour de 70 ans, l'espérance de vie, elle est moyenne. Donc, elle va faire, mettons, 35 ans. Mais ça ne veut pas du tout dire, bien sûr, que les gens meurent à 35 ans. Ça veut dire qu'ils sont beaucoup morts jeunes et puis que les autres vont survivre et vont mourir d'usure, en quelque sorte. Et donc, ce qu'on a vu comme prolongation de l'espérance de vie, c'est parce que la médecine a beaucoup travaillé sur la mortalité infantile, qui a presque disparu, on peut dire. Hein. En Suède, il y a quelques années, aucune fille de la tranche d'âge 8 ans n'était morte. C'était peut-être la première fois dans toute l'humanité.
Dans les pays occidentaux, il faut préciser.
Alors après, bien sûr, tout dépend du contexte et de la classe sociale aussi. Mais globalement, la médecine a fait énormément d'efforts pour réduire la mortalité infantile. Et donc mécaniquement, l'espérance de vie s'est allongée. Mais ça n'est qu'un effet de calcul, en quelque sorte. Ça ne veut pas dire que moi, par exemple, je vais vivre plus longtemps à cause de ça. Par contre, il y a depuis quelques années, parce que maintenant qu'on a beaucoup réduit la mortalité, infantile, il y a un effort sur la mortalité tardive. Et effectivement, là, il faut grignoter parce qu'effectivement, nous avons des processus de ces naissances contre lesquels il est quasiment impossible de lutter, mais on peut les retarder. Donc, tout l'effort de la médecine actuelle, c'est de retarder ce processus pour donc prolonger l'espérance de vie des gens de plus de 60 ans, par exemple. Et ça, et en plus, en bonne santé, si possible. Donc ça, c'est l'ambition de la médecine actuelle.
Pierre-François Roux, sur effectivement ce distinguo très important à faire dès le début de cette émission entre la longévité et les espérance de vie.
Oui, alors effectivement, là, on a pas mal discuté donc sur des considérations un peu épidémiologiques. En fait, du point de vue biologique, ce qu'on va appeler sénescence, c'est finalement des processus qui vont avoir lieu au niveau vraiment cellulaire. Et qui vont finalement contribuer à la fois à la durée de vie, à l'espérance de vie. Mais en fait, là, il faut vraiment voir la sénescence comme un processus qui va être bénéfique tôt dans la vie, puisqu'en fait, il s'agit d'un mécanisme que l'organisme et que l'évolution a mis en place pour répondre notamment à tous les stress qu'on appelle génotoxiques. Je pense notamment au stress UV lié au soleil, mais également à tous les polluants qu'il y a dans l'environnement, qui vont entraîner en fait un certain nombre de mutations au niveau de l'ADN. Et en fait, la sénescence, donc le vieillissement cellulaire, est vraiment différent du vieillissement à l'échelle de l'organisme, puisqu'il va, se manifester à tous les âges de la vie. Mmh. Et petit à petit, les cellules dites sénescentes vont s'accumuler dans l'organisme, puisque le système immunitaire notamment est moins efficace avec l'âge. Et ces cellules s'accumulant vont en fait entraîner progressivement ce qu'on appelle une perte d'homéostasie des organes et vont finalement empêcher ces organes de réaliser leurs fonctions physiologiques telles que respirer, digérer, etc. Et donc c'est ça qui va avoir un impact sur le développement de pathologies liées à l'âge.
Et qui va provoquer ce qu'on appelle communément le vieillissement. Est-ce que ça veut dire, Pierre-François Roux, que dans chaque organisme vivant, il y a une sorte de point terminal, de date de péremption qui est indépassable ?
Alors, à l'échelle du vivant, c'est un peu difficile de répondre de manière complètement tranchée à cette question, en fait. Il y a un certain nombre d'horloges biologiques, effectivement, qui vont compter, en fait, le nombre de divisions cellulaires, notamment. Je pense notamment à ces extrémités des chromosomes qu'on appelle les télomères et qui vont avoir cette faculté de réduire en taille progressivement lorsque les cellules se divisent. Et l'objectif, c'est finalement de limiter le nombre maximal de divisions qu'une cellule va pouvoir connaître au cours de son existence pour éviter qu'elle n'accumule trop les mutations au fil du temps. Mais ce mécanisme n'est pas commun, en fait, à l'ensemble des organismes vivants. Il va être présent notamment chez l'homme. Mais par exemple, chez la souris, on sait qu'il est beaucoup moins efficace.
Sur cette question finalement d'une sorte d'horloge ou de temps compté à l'infroment, on peut dire par exemple qu'on peut imaginer que l'être humain n'est pas programmé, génétiquement en tout cas, pour dépasser un certain âge, qu'on n'ira jamais au-delà de 120-130 ans, qui est une date butoir.
On ne va jamais dire jamais. La médecine, elle a en gros trois objectifs. Le premier, c'est d'éviter que les gens ne meurent d'accident. Et j'entends par accident n'importe quelle circonstance de la vie qui va l'abréger. Une maladie infectieuse, un cancer, une maladie chronique quelconque, sans compter bien sûr les accidents de voiture, etc. Donc ça déjà, si la médecine un jour comprend tous les mécanismes pathologiques et peut les éviter, notamment par la prévention, à ce moment-là, on est en droit d'imaginer que les gens puissent mourir de ce qu'on appelle
leur belle mort.
La belle mort, ça a bien un terme bien approprié, et que donc, effectivement, on atteigne le maximum physiologique actuel, qui est donc, on l'a dit, puisqu'on a des témoins, d'une centaine d'années, voire un peu plus. La deuxième étape, comme l'a dit Monsieur Roux, c'est de travailler sur des mécanismes pour améliorer, par exemple sur effectivement les télomérases, et donc ajouter, peut-être aussi avec des manipulations génétiques, ajouter à l'espérance de vie en trouvant les gènes de ces naissances et en les modifiant. Et puis, la troisième étape, qui est pour le moment vraiment hors de portée, mais qui est un rêve, c'est celui du transhumanisme, c'est-à-dire pratiquement l'immortalité. Simplement, nous, et surtout en tant que vertébrés, on est programmés pour mourir parce que l'évolution biologique, c'est en fait la reproduction, c'est ce que Darwin appelait la descendance avec modification. Donc nos descendants sont mieux que nous, la sélection les trie pour être mieux, et nous devons disparaître pour leur laisser la place. Et si nous avons des descendants et que nous ne disparaissons pas, à un moment, nous épuisons toutes les ressources. Donc le mécanisme de mort, d'élimination, il est normal en quelque sorte, il est physiologique.
Se pose une question ontologique, philosophique, autant que scientifique, biologique et chimique. Pierre-François Roux, comment expliquer aujourd'hui que le vivant et c'est naissant, alors que les composants du vivant, les atomes, certaines molécules, ces composants-là sont éternels?
Alors, en fait, on peut concevoir la vie comme une lutte permanente contre l'oxydation, en fait. La grande majorité des êtres vivants ont besoin de l'oxygène, en fait, pour vivre au travers de leur métabolisme. Et finalement, ce métabolisme va avoir pour effet notamment la génération de ce qu'on appelle des espèces réactives de l'oxygène. Et en fait, ces espèces réactives de l'oxygène vont avoir pour propriété de perturber grandement l'environnement cellulaire, d'aller perturber les membranes qui sont constitutives des cellules et qui leur permettent d'assurer leur fonction biologique, mais également de générer en fait des mutations au niveau de l'ADN. En fait, c'est vraiment l'accumulation finalement de ces mutations qui va entraîner le système de veille de l'organisme, à savoir la sénescence cellulaire qui va être enclenchée pour encore une fois éviter de transmettre aux générations de cellules futures un trop grand nombre de mutations, dans l'optique notamment de lutter contre l'émergence des cancers.
C'est-à-dire que si on comprend ça, finalement la sénescence est un mécanisme de défense, de protection, pour éviter justement ce que vient d'écrire Pierre-François Roux, à savoir que bien des cellules qui vivraient trop longtemps finiraient par dysfonctionner complètement et bien perturber l'organisme. C'est en fait une sorte de paradoxe ou de serpent qui se mord la queue. Elles deviennent sénescentes pour éviter la sénescence ou le dysfonctionnement.
Oui, alors là, il y a quand même deux facteurs. Les facteurs intrinsèques dont on vient de parler, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a un vieillissement cellulaire et notamment au niveau neuronal. Ça, c'est pas une question facile, la dégradation des fonctions supérieures. Et puis, il y a les facteurs externes, extrinsèques, sur lesquels on peut agir davantage. Et ça, c'est notamment donc le mode de vie, l'épigénétique, qui va, par des facteurs d'environnement, impacter notre ADN, l'inactiver ou au contraire le stimuler. Et donc, si on veut que les gens aient une meilleure vie, il faut travailler sur ces facteurs extrinsèques en les protégeant davantage. Et ça, c'est des questions très présentes, notamment sur l'âge des retraites. Pourquoi est-ce qu'on dit qu'il faut pas que la retraite soit très tardive? C'est parce que les gens sont usés. Mais là, vu comme ça, la question est un petit peu mal posée. C'est pas mieux de partir à 60 ans plutôt qu'à 65. Si on a une profession pénible, il faut peut-être partir à 50 ans. Vous voyez, mais ce qui est injuste, en fait, c'est le fait que certains arrivent plus usés que d'autres. Et donc, à cause de ces facteurs extrinsèques.
Alors, il y a effectivement les facteurs extrinsèques, Alain Froment, mais on est aussi inégaux devant la vieillesse et devant la sénescence. Il y a des gens qui vieillissent plus vite que d'autres. Cette inégalité, elle peut être génétique, elle peut être constitutive finalement de l'organisme.
Alors oui, il y a des facteurs génétiques, il y a des familles où on vit plus âgé que d'autres, mais à la marge, ça compte, mais je pense que ça c'est peu accessible, sauf, j'en parlais tout à l'heure, à faire des manipulations génétiques pour encourager ces gènes-là. En revanche, lutter pour la protection de l'organisme contre les toxiques, donc Pierre-François a parlé des stress oxydatifs, mais d'une façon générale, donc les modes de vie toxiques, donc l'exposition aux polluants, ça c'est un problème social. Et c'est pas tellement binaire, c'est pas les vieux sont enfin les pauvres meurent jeunes et les vieux meurent riches. Non, c'est plutôt une question culturelle. C'est-à-dire que dans les milieux populaires, vous avez par exemple, c'est pas un problème économique. Là, l'analyse économique serait faussée. On dépense plus, par exemple, en achat d'alcool, de tabac, etc. Ça, c'est pour des raisons sociologiques. C'est pour des raisons culturelles. Donc, c'est de l'argent. Donc, même si les gens en sont démunis, ils préfèrent quand même investir là-dedans. Donc, il faut que les anthropologues s'interrogent là sur des comportements culturels qui sont toxiques. Parce que tout le monde sait que c'est toxique de fumer, mais ça n'empêche pas les gens de le faire. Et on sait que les gens les moins privilégiés fument davantage, par exemple. Et que, en dehors des métiers pénibles, etc., ça, c'est pour beaucoup dans les différences d'espérance de vie. Donc, il faut déjà comprendre ça pour essayer de fournir aux gens des solutions. Ensuite, il faut qu'il y ait une certaine sobriété. Par exemple, pendant longtemps, les métiers qui étaient associés à la plus grande longévité, c'était instituteur ou curé de campagne. Vous voyez, c'est des gens qui n'ont pas des gros revenus, donc il y a un mode de vie sobre, qui sont physiquement assez actifs. Hein, l'instituteur fait la gymnastique avec ses élèves, le curé fait du vélo, etc. Et donc, ils ne dépensent pas beaucoup d'argent en viande non plus. Ils mangent des légumes, ils mangent des fruits. Enfin, ils mangent ce que les recommandations, évidemment, assez banales, finalement, des nutritionnistes conseillent, c'est-à-dire peu de sel, peu de sucre, peu d'alcool, un petit peu quand même, mais pas beaucoup.
Vin de messe
etc. Donc ça, c'est des conseils de bon sens, et qui vont jouer. Et si on ne les respecte pas, c'est pour d'autres raisons.
On entend bien qu'il y a évidemment le mode de vie, le niveau de stress aussi, et pas seulement oxydatif, bref, le cadre de vie, le niveau de revenu, tout ça a évidemment, et c'est effectivement très bien documenté, un effet un effet direct sur l'espérance de vie. On sait qu'il y a une différence d'espérance de vie de plusieurs années, de 6 à 7 ans, entre les ouvriers et les cadres supérieurs. Mais Pierre-François Roux, est-ce que tout ça est suffisant pour expliquer, pour le dire dans le langage courant, que certaines personnes font plus vieux ou font plus jeunes? Est-ce que une fois de plus, certaines personnes sont privilégiées d'une certaine manière, qui ne soit pas uniquement liée au cadre ou au niveau de vie dans les processus de vieillissement par rapport à d'autres.
Il y a effectivement une composante génétique qui va finalement être liée à ce potentiel génétique qu'on va qualifier de durée de vie maximale. Et il y a cette composante environnementale et sociétale qui, au travers finalement de l'épigénétique, va avoir un impact sur l'organisme et cette fois-ci va contribuer à l'espérance de vie et donc finalement à l'âge que la personne va atteindre.
Il faut distinguer, Pierre-François Roux, la différence entre ce qu'on appelle l'âge chronologique et l'âge biologique. Les deux peuvent diverger énormément.
Oui, tout à fait. Alors l'âge biologique, en fait, donc on évoquait une des horloges biologiques tout à l'heure avec le raccourcissement des télomères. Il y a d'autres horloges biologiques en fait qui vont quelque part fonctionner à l'échelle de l'organisme. Donc je pense notamment à une horloge qu'on appelle la méthylation de l'ADN, dont on entend pas mal parler dans la communauté scientifique autour du vieillissement et de la sénescence, et qui va avoir attrait en fait aux modifications épigénétiques et qui va en fait révéler le taux de stress, notamment de stress oxydant, que l'organisme a subi au cours de sa vie. Et il peut y avoir un découplage entre ce vieillissement finalement cellulaire, moléculaire, et le vieillissement chronologique. Et donc souvent, un vieillissement moléculaire avancé va être associé à l'émergence d'un certain nombre de pathologies liées au vieillissement.
Sur cette question, Alain Froment ?
Alors, ce qui est intéressant, c'est de comparer les espèces entre elles et de nous comparer, nous, à l'intérieur d'une même espèce. Par exemple, il y a des corrélations entre la taille de l'organisme et la longévité. Mais les études sont un peu contradictoires. Mais il semble que, par exemple, les hommes grands aient une espérance de vie légèrement inférieure aux hommes plus petits. Et par contre, chez les femmes, ce serait l'inverse. Et d'ailleurs, une belle différence, c'est la différence homme-femme. C'est-à-dire que, en dehors du fait que les femmes sont plus exposées, notamment dans les pays moins développés, au risque de la maternité, mais une fois qu'elles ont dépassé ça, leur espérance de vie intrinsèque, en quelque sorte, est plus longue.
Et ça, on l'explique comment ?
Alors, on l'explique mal. On l'explique probablement pour des raisons justement génétiques, hein, du chromosome X. Après, ce qui nous distingue des autres animaux, c'est le fait que notre fécondité, notre période de fécondité, chez les femmes notamment, elle s'abrège. Disons à 50 ans, hein, c'est ce qu'on appelle la ménopause, et c'est un trait qu'on n'observe pas chez la plupart des autres mammifères.
C'est très rare, effectivement.
C'est très rare. Et cette ménopause, donc, elle est curieuse, parce que, effectivement, à quoi sert dans un groupe une femme qui n'a plus de reproduction, donc qui n'est plus intéressante du point de vue de l'évolution. Et même chez les hommes un peu âgés, puisqu'ils ont déjà fait en général leurs enfants, à quoi ça sert de survivre à ces enfants en termes darwiniens, puisque la sélection, elle va agir sur les enfants et plus sur vous qui êtes déjà dépassés de ce point de vue-là. Eh bien, ce qui nous distingue quand même des autres espèces, notamment, entre autres, hein, mais c'est notre faculté de coopération. Et donc le fait que les gens soient utiles après leur période de reproduction, c'est notamment ce qu'on appelle la théorie de la grand-mère, hein, en ce qui concerne la ménopause, c'est-à-dire qu'une femme, une fois qu'elle a cessé de se reproduire, donc d'être utile de ce point de vue-là, acquiert une nouvelle utilité qui est le passage des traditions, le fait que quand les parents plus jeunes doivent s'absenter pour collecter la nourriture, elle, dans la grotte, elle va s'occuper des petits-enfants. Et ça, c'est un trait qu'on retrouve très peu dans les autres espèces animales où les grands-parents ne s'occupent pas des petits-enfants.
Nous allons continuer à nous intéresser au vieillissement et nous allons remonter justement à travers d'autres espèces le fil du temps et voir que certaines espèces animales puis végétales peuvent durer bien plus longtemps que nous.
Oh man, look at my life, I'm a lot like you were. Old man, look at my life, I'm a lot like you were. Old man, look at my life, 24 and there's so much more. Live alone in a paradise that makes me think of two. Love lost such a cause, give me things that don't get lost, like a coin that won't get tossed, rolling home to you. Oh man, take a look at my life, I'm a lot like you. I need someone to love me the whole.
Old Man de Neil Young dans Infiniment, puisque nous parcourons aujourd'hui les chemins de la sénescence et du vieillissement en compagnie de Pierre-François Roux, biologiste chercheur à l'INSERM à l'Institut de Recherche en Cancérologie de Montpellier, et Alain Froment, médecin spécialiste en anthropologie biologique au Musée de l'Homme à Paris. Si l'être humain, comme nous venons de le dire, dans le meilleur des cas, vit une centaine d'années, quand on se tourne vers le règne animal, la notion de longévité a été largement revue depuis ces dernières années, comme en atteste notre archive du jour. Nous sommes en 1958.
On est toujours surpris par les divergences, parfois considérables, entre des évaluations des auteurs qui se sont préoccupés de ces questions. Soit, par exemple, la longévité de la carpe. Buffon l'estimait à un siècle et demi. Le Grand, en 1911, n'hésitait pas à doubler cette durée. tandis que Bourlière l'a ramené récemment à 47 ans. Naguère, avec Legrand et Korfelt, on soutenait que l'éléphant pouvait vivre 200 ans. Mais en 1932, Flower et Rhodes ne consentent plus qu'à 80 ans, et Bourlière, en 1947, reniait encore de 5 ans sur ce maximum. Une première remarque s'impose. Tout comme pour les hommes, des réputations usurpées de longue vie atteignent le vent animal. De justes évaluations demandent de patientes recherches. Prenons le cas des mammifères. On ne connaît pas encore de critères certains de l'âge des adultes. Seule la longévité des espèces domestiques ou captives est chiffrable avec certitude. Ces réserves faites, quelles sont les durées communément admises aujourd'hui pour la vie de divers représentants du règne animal? On ne possède pas de données certaines pour un grand nombre d'espèces de mammifères. Mais il est assuré que dans cet important groupe, l'homme jouit d'un véritable privilège en durant parfois plus d'un siècle. Seul l'éléphant d'Asie et parfois le cheval parviennent à vivre plus de 50 ans. Pour la plupart des espèces de taille voisine de la nôtre, la longévité habituelle oscille entre 12 et 25 ans, et la majorité des espèces de petite taille durent beaucoup moins longtemps. C'est ainsi que la plupart des rongeurs ne vivent ordinairement que 2 à 3 ans et jamais plus de 6 à 7 ans. Louis XI, obsédé par la crainte d'une fin précoce, espéra quelque réconfort du sang de tortue, mandés exprès des îles du Cap-Vert.
Voilà, extrait de l'heure de la culture française sur la radiodiffusion française. Nous sommes en novembre 1958, de la difficulté à l'infroment de déterminer la longévité exacte des espèces.
Oui, c'est un magnifique morceau d'archive. Je suis heureux d'ailleurs d'entendre prononcer le nom du professeur Bourlière, qui était un grand pionnier de la géontologie. Alors en biologie, on aime bien théoriser, on aime bien déduire des lois générales. Mais il y a énormément de cas particuliers, en fait. Par exemple, si un animal est très protégé, comme la tortue avec sa carapace, on peut estimer qu'elle est moins vulnérable, qu'elle va vivre plus longtemps. Certains ont dit aussi que ses œufs, par contre, eux, sont vulnérables et que donc allonger sa durée de vie lui donne un maximum de chances qu'un certain nombre d'œufs puissent survivre. Donc, on a des cas particuliers. D'autres, ben, l'éléphant, par exemple, sa stratégie de survie, c'est de grossir, donc de pas avoir de prédateurs. Et malgré ça, il ne vit pas des siècles, effectivement.
Après, l'éléphant, juste pour information, par rapport à ce qui vient d'être dit dans l'archive, aujourd'hui on arrive à peu près à quantifier l'espérance de vie précise. L'espérance de vie de l'éléphant d'Asie est de 48 ans, de l'éléphant de savane d'Afrique de 60 ans et de forêt d'Afrique de 60 à 70 ans. Donc voilà à peu près les chiffres dont on dispose aujourd'hui pour l'éléphant, tandis que la carpe, dont on pensait qu'elle était bicentenaire, ne vit guère plus de 20 ans.
Et comme le disait l'extrait, on manque parfois de quantification. Alors maintenant, on sait déterminer l'âge des poissons, par exemple, même l'âge des tortues, les requins, etc. Il y a des marqueurs objectifs, et on s'aperçoit qu'il est difficile, effectivement, de déduire des lois générales. Malgré tout, une observation a été faite, et vous parliez de programmation en commençant, c'est sur le nombre de battements cardiaques. Et il y a une moyenne, semble-t-il, au travers des espèces, qui est de l'ordre de 3 milliards de battements. Et si vous avez un petit mammifère dont le cœur bat très vite, par exemple le hamster a des pulsations de 400 par minute, eh bien effectivement, ça a été dit dans l'extrait, sa durée de vie, comme la plupart des petits rongeurs, est courte. Et nous qui donc avons un pouls qui oscille entre 60 et 80, on sait que les gens qui ont des pouls plus lents parce qu'ils ont été sportifs vont vivre 7 ans de plus que quelqu'un qui n'est pas sportif. De même, là on retombe sur des questions de niveau culturel, les gens qui sont éduqués par rapport à ceux qui ne le sont pas vivent plus vieux, et il est donc question là d'entretien individuel du corps. Mais au niveau des espèces, donc il y a cette loi plus ou moins pleine d'exceptions qui veut qu'effectivement plus le cœur bat lentement, plus l'espérance de vie est longue. Et dans le cas des baleines qui peuvent vivre 200 ans, effectivement on a des poux à 20-25 qui sont liés en fait à leur physiologie parce qu'elles vivent dans l'eau et que donc elles doivent stocker de l'oxygène et ça. Donc c'est une question de débit cardiaque et d'une façon plus générale, c'est une question de vivacité en quelque sorte du métabolisme cellulaire, du métabolisme de base.
Pierre-François Roux, sur ces importantes différences de longévité, alors effectivement, on a tendance à dire que la règle dont nous parlions tout à l'heure, plus l'animal est gros, plus son espérance de vie est longue, mais en même temps, quand on regarde les espèces avec les espérances de vie et les longévités les plus grandes, eh bien ce sont pas forcément les espèces les plus importantes en taille.
Oui, tout à fait. Ben, je pense que c'est Alain a très bien présenté la chose. Oui, il y a effectivement une règle qui consiste à dire que plus le métabolisme va être lent, plus le rythme cardiaque va être réduit et plus l'espérance de vie va être importante. Je pense notamment aux requins du Groenland, dont on a pas mal entendu parler ces dernières années, dont l'espérance de vie a été estimée aux alentours de 500 ans. Donc c'est un poisson qui vit dans des eaux extrêmement froides et dont la vivacité, comme le disait Alain, est vraiment très très réduite. Donc ça c'est la règle, mais après effectivement il va y avoir des animaux qu'on va considérer de petite taille et qui pourtant vont présenter des espérances de vie assez incroyables. Donc j'ai quelques exemples que je trouve assez fascinants en tête. Donc chez les homards par exemple, on a retrouvé un certain nombre d'individus âgés d'une centaine d'années. Chez les hyménoptères, donc cette grande famille qui regroupe les abeilles, les guêpes, les fourmis, les rennes dans ces colonies vont pouvoir pour certaines espèces atteindre une trentaine d'années, ce qui est vraiment incroyable. Chez les batraciens, la salamandre géante, on a retrouvé des individus dont l'âge a été mesuré aux alentours de 60 ans. La liste d'exceptions est longue, mais le fait est que ça reste des exceptions aux marges de cette règle.
Ce qui est intéressant chez les hyménoptères, par exemple Pierre-François Roux, c'est que quand on trouve des rennes qui peuvent effectivement vivre plusieurs dizaines d'années dans la colonie, certaines ouvrières qui sont pourtant des clones de la reine, elles ne vivent quasiment qu'un an. Donc ça veut dire que là, il y a vraiment une forme de composante génétique ou en tout cas de bombe à retardement génétique chez les abeilles pour raccourcir leur durée de vie par rapport à la reine. Comment est-ce qu'on l'explique en termes évolutifs, ça, par exemple ?
Alors, en fait, on va rebondir un petit peu sur ce qu'on disait en tout début d'émission lorsqu'on définissait un peu ce qu'était la durée de vie maximale, à savoir le potentiel génétique d'une espèce à vieillir et l'espérance de vie in fine. Et en fait, là, on se retrouve vraiment face à cet exemple. C'est-à-dire qu'effectivement, au sein d'une colonie d'hyménoptères, les individus sont clonaux, ils portent tous le même génome, donc tous le même potentiel génétique à vieillir. En revanche, de par l'impact de l'environnement et notamment de ces aliments qui vont transformer un individu en reine, donc je pense notamment à la gelée royale chez les abeilles, eh bien finalement là on est face à l'épigénétique et l'influence de l'environnement sur ce potentiel génétique.
Comment, Alain Froment, il y a évidemment le symbole parmi les animaux de la longévité, c'est la tortue, en l'occurrence une espèce particulière qui est la tortue géante des Seychelles. Là aussi, en termes évolutifs, quel est l'intérêt pour ces organismes-là d'avoir ces extrêmement longues périodes de vie ? Est-ce que vous le disiez, c'est strictement reproductif ? Est-ce qu'on comprend exactement ces mécanismes pour ces animaux qui sont effectivement de bonne taille mais relativement intermédiaires et dont l'espérance de vie est disproportionnée par rapport à ce que dit la règle dont on vient de parler il y a quelques secondes?
Alors, je pense qu'il faut comparer ce qui est comparable. Par exemple, c'est difficile de nous comparer avec des hyménoptères ou avec des plantes parce que vraiment, les mécanismes sont différents. En revanche, entre vertébrés, les ancêtres communs sont relativement proches, hein, même avec les tortues. Et il semble que, en tout cas chez certaines espèces de tortues, il y ait des mécanismes de réparation génétique qui ont certainement beaucoup à nous apprendre sur la faculté de justement se débarrasser de tout ce qui pourrait être accident de vie, donc les cancers, là Monsieur Roux nous en parlera davantage, mais comment certaines espèces arrivent à se débarrasser de leurs mutations néfastes et pas d'autres.
Oui, Pierre-François Roux, ce qui est intéressant, c'est que le point commun à plusieurs de ces organismes ou de ces animaux qui ont une très grande durée de vie, c'est effectivement génétiquement des redondances ou des multiplications de gènes que l'on sait être des gènes qui préviennent les cancers, des gènes anti-oncologiques.
Oui, tout à fait. Alors, en fait, ce qui est assez fascinant quand on parle de ces très gros animaux, je pense notamment à la baleine boréale, dont certains individus ont été âgés aux alentours de 200 années, c'est qu'en fait, il faut vraiment voir un organisme, plus il grandit, plus le nombre de cellules qui va le composer va grandir, j'ai envie de dire presque de manière exponentielle. Et donc, on s'attendrait à ce que ces animaux, justement, aient beaucoup de mal à lutter contre l'émergence de cancer, parce que qui dit plus de cellules dit un plus grand risque d'accumuler des mutations. Et finalement, cette règle-là, elle ne s'applique pas du tout. C'est-à-dire qu'on n'observe pas plus de cancer chez les éléphants ou chez la baleine. Et finalement, ce serait presque même le contraire. Et un des mécanismes par lesquels l'évolution a joué, c'est effectivement en dupliquant finalement un certain nombre de gènes qui vont coder pour des protéines qui vont venir surveiller les mutations qui vont émerger à l'échelle du génome et venir les corriger en fait. Et donc elles vont décupler cette capacité de l'organisme à corriger les erreurs et à éliminer les cellules qui présenteraient ce genre d'erreur.
Et si on va vraiment jusqu'à l'extrême absence de ces naissances en l'occurrence, on trouve une toute petite méduse, Turritopsis nutricula, dont on estime qu'elle approcherait vers quelque chose qui ressemble à l'immortalité, puisque au moment où elle arrive au stade de ses naissances, au lieu de vieillir, eh bien ses cellules régressent vers un état hanté, vers un état de polype avant de se redévelopper à nouveau. Un commentaire sur ce type de phénomène extrêmement rare mais qui intéresse beaucoup toute la recherche, notamment sur les questions des télomères, sur la recherche génétique, sur la sénescence.
Oui, ça c'est magnifique, c'est un cas très exceptionnel. Il est encore phylogénétiquement très éloigné de nous. Mais si on veut se placer de ce point de vue-là, on peut considérer que certains organismes sont quasiment immortels quand ils n'ont pas la reproduction sexuée. Prenez une bactérie ou prenez une paramécie, une amibe, un protozoaire, puisqu'ils se divisent constamment, est-ce que au bout de la millième génération, c'est toujours la même amibe en fait qui est immortelle, ou si c'est un individu tout à fait différent? Évidemment, ces organismes-là, ils ne vont accumuler des mutations qu'avec le temps, avec les accidents de l'ADN, mais ils ne vont pas créer beaucoup de nouveautés. Ce qui a été magnifique avec l'invention de la reproduction sexuée, c'est de créer de la diversité. Et donc là, il n'était plus question, on l'a dit tout à l'heure, d'être immortel, d'avoir une descendance et de cohabiter avec cette descendance, puisque là, il faut céder la place. Mais ça a beaucoup accéléré l'évolution d'avoir cette possibilité de recombinaison génétique que fournissait la reproduction sexuée.
Ça pose une vraie question, là aussi, presque ontologique, Pierre-François Roux. Est-ce que on peut effectivement parler de ce type d'organisme comme étant le même organisme qui touche une forme d'immortalité ou simplement une autre forme de perpétuation du vivant qui finalement contourne la question de la sénescence d'une autre façon?
Oui, je pense qu'il y a effectivement un petit peu de ça. Après, le Turritopsis nutricula donc fait partie de cette grande famille des cnidaires. Et c'est vrai que, comme Alain le mentionnait, en fait, ils ont en général des cycles biologiques assez compliqués, en alternant des phases polypes, puis des phases méduses. Et finalement, chez ces organismes-là en particulier, c'est assez difficile de mettre une limite sur ce qu'on va considérer comme étant l'individu. Et donc, est-ce que finalement, cette capacité de la méduse à redevenir à l'état embryonnaire et à l'état polype constitue réellement un phénomène de réjuvénation qui nous mènerait vers l'immortalité? Ou alors presque une exception biologique. Mais encore une fois, cette notion d'individu, je pense qu'elle est vraiment importante lorsqu'on parle de vieillissement, et notamment chez les espèces qui présentent une alternative à la reproduction sexuée, comme le disait Alain.
Si on passe du côté du végétal, c'est vrai que les durées de vie s'allongent, alors on pense aux très très vieux arbres, mais quand on regarde finalement ce qui aujourd'hui est considéré comme faisant partie des plus vieux organismes de la planète, on trouve là aussi des, ce qu'on appelle des colonies clonales, notamment une colonie clonale de peupliers faux-trembles dans l'Utah aux États-Unis, qui est sur une grande surface, hein, sur plusieurs dizaines de kilomètres carrés, et dont on estime qu'elle pourrait avoir jusqu'à 80 000 ans. Pierre-François Roux, est-ce que là aussi on peut vraiment considérer que ces peupliers, qui en fait repoussent à partir du même réseau racinaire et de façon façon non sexuée, est-ce qu'on peut considérer que ces peupliers ont vraiment 80 000 ans, ou est-ce que c'est finalement une fausse perception de ce qu'est cet organisme vis-à-vis de la sénescence?
Oui, je pense que une fois encore, il faut vraiment faire la distinction entre les organismes qui vont présenter une reproduction sexuée, comme c'est le cas chez les vertébrés, chez la majorité des vertébrés, les mammifères, et le règne végétal qui a cette possibilité effectivement de se reproduire par voie non sexuée et par un phénomène de bouturage quelque part. Donc me concernant, je pense qu'il y a un petit côté un peu marketing lorsqu'on dit que...
Oui, c'est-à-dire qu'on est un peu... On est un peu à côté de la question du vieillissement véritablement, puisque ce sont plus du tout le même type d'organisme. Néanmoins, si on revient dans le domaine du biologique, là aussi, alors il y a un cas particulier qui est assez intéressant, celui d'une cellule qu'on appelle une cellule HeLa, H-E-L-A, des cellules qui ont été prélevées en 1951 sur une femme appelée Henrietta Lacks, une jeune femme noire américaine, morte d'un cancer du col de l'utérus. Alain Froment, vous pouvez nous en dire un mot parce que ces cellules, aujourd'hui, au moment où nous parlons, sont des cellules humaines, totalement immortelles.
Ça, c'est une merveille. Effectivement, c'est cette pauvre jeune femme qui est morte d'un cancer. Qui avait...
Assez jeune, elle avait 31 ans.
Oui, et je crois. À cause en fait du papillomavirus qui avait déclenché son cancer. Et il semble que cette co-infection est donnée à... Alors, on parle non pas de ses cellules à elle, mais des cellules de son cancer. C'est pas tout à fait la même chose. Des cellules cancéreuses, et là encore, Pierre-François pourra nous en dire davantage, mais qui sont normalement rejetées comme étrangères par l'organisme. Quand on fait un cancer, c'est que notre système immunitaire a manqué de vigilance. Toujours est-il que ces cellules ont été mises en culture, elles se sont avérées quasiment immortelles puisqu'elles se reproduisent indéfiniment, elles sont dans tous les laboratoires de la planète, donc le volume de cellules d'Henrietta est énorme, c'est considérable, son tissu a permis de faire des avancées considérables dans tous les domaines de la biologie, et donc c'est à ce regrettable événement, ce cancer malheureux, qu'en fait on doit ces immense progrès.
La somme totale des cellules HeLa depuis qu'elles ont été prélevées en 1951 est de 50 millions de tonnes. C'est-à-dire à quel point ces cellules continuent à se reproduire. Vous pouvez nous en dire un mot, Pierre-François Roux. Qu'est-ce qu'elles peuvent nous apprendre finalement? Est-ce que ce sont simplement des cellules pathologiques, des cellules cancéreuses, ou est-ce qu'elles ont quelque part la clé justement de l'éternité cellulaire et peut-être d'une certaine forme d'immortalité du vivant?
Ben écoutez, c'est vraiment là où finalement on va en revenir un petit peu à cette introduction de l'émission où on parlait finalement de la sénescence comme un mécanisme un peu à double tranchant finalement. D'une part, l'organisme a besoin de se débarrasser finalement des cellules qui ont accumulé un certain nombre de mutations. D'où la mise en place de la sénescence cellulaire. Et d'autre part, si on prend le risque finalement de contourner ce mécanisme-là, de faire re-rentrer les cellules potentiellement cancéreuses dans le cycle cellulaire, on prend le risque finalement de développer le cancer. Donc je pense que ces cellules immortalisées qu'on utilise effectivement beaucoup comme modèle au laboratoire ne cache pas le secret de la vie éternelle, puisque au final, la réalité, c'est que jouer sur la sénescence cellulaire, c'est vraiment dans le cadre de la santé humaine prendre le risque de développer plus facilement des cancers.
Et comme le disait Woody Allen, l'éternité, c'est long, surtout vers la fin. Il est grand temps de laisser la vie s'achever et de revenir à des âges raisonnables. Merci beaucoup à vous deux d'être venus nous parler de ces histoires de vieillesse et de sénescence. Merci Alain Froment. On peut vous lire dans Homo Futurus, un ouvrage que vous avez dirigé aux éditions Ovadia. Merci à vous également Pierre-François Roux et merci à nos camarades de France Bleu Hérault à Montpellier pour le duplex. Infiniment, c'est Mariam Ibrahim, Alexandre Morales, Olivier Bétard et Jordan Fuentes. Demain, nous allons partir dans le sens inverse et remonter le fil du temps vers la jeunesse éphémère, jamais éternelle, et vers ces organismes qui ne vivent au monde que quelques jours, quelques minutes, quelques secondes. Vers l'infiniment jeune et au-delà.